Il est vivant.
Il est
vivant.
Il est ressuscité.
Qui?
Jésus.
Nous allons encore lire dans un autre passage, dans Psaume 30. Psaume au chapitre 30. Juste le verset 6b. À partir du verset 6b jusqu'au verset 13. Pour un instant, sous sa colère, toute une vie dans sa faveur. Le soir s'attarde et les pleurs, mais au matin, crie la joie. Et moi, tranquille, je disais, je resterai inébranlable. Seigneur, dans ta faveur, tu as fortifié ma montagne. Mais tu as caché ta face et je fus épouvanté. Seigneur, j'ai fait appel à toi. J'ai supplié le Seigneur. Que gagnes-tu à mon sang et à ma descente dans la fosse? La poussière peut-elle te rendre grâce? Proclame-t-elle ta fidélité? Écoute, Seigneur, par pitié, Seigneur, sois mon aide. 12. Tu as changé mon deuil en une danse et remplacé mon sac par des habits de fête. Aussi l'âme te chante sans répit. Seigneur mon Dieu, je te rendrai grâce toujours. Je reprends les versets 12 et 13. Tu as changé mon deuil en une danse et remplacé mon sac par des habits de fête. Aussi l'âme te chante sans répit. Seigneur mon Dieu, je te rendrai grâce toujours. Parole du Seigneur. Mais qu'il y passait, j'ai conduit une méditation dans notre séminaire de mercredi. Et j'ai essayé de dire à ceux qui étaient là que nous puissions faire une lecture synoptique, en fait, d'un seul coup de regard, essayer de voir ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus dans les quatre évangiles. Nous nous sommes rendus compte que la résurrection du Christ comme événement avait plongé les disciples dans la confusion totale. Ils n'ont pas célébré, ils n'ont pas chanté. Ils étaient presque tous préoccupés, inquiets, dans la peur. Pourquoi cela? C'est une question que nous sommes posées et nous voulons encore y revenir ce matin en faisant la lecture de Jean chapitre 20, versets 11 à 23. Autour du thème, l'apparition du ressuscité, un passage de l'enfermement à la mission. Un passage de l'enfermement à la mission. Je vais d'abord introduire et parler de deux types de disciples que nous trouvons dans ce passage et au fur et à mesure nous allons tirer des leçons lorsque nous parlerons de Marie de Magdala qui apparaît dans Jean chapitre 20 et aussi les disciples dont dont le texte parle au chapitre 20 à partir du verset 11 jusqu'au verset 23. Nous parlerons de ces deux types de disciples. Je venais de dire que la résurrection du Christ n'a pas plongé les disciples dans la réjouissance. Pourtant, nous tous aujourd'hui, nous célébrons la Pâque comme un événement heureux. Parce que les évangiles nous y aident, mais aussi d'autres écrits, les épîtres nous aident à comprendre ce que signifie pour nous la résurrection. L'événement de la résurrection du Christ a eu lieu à un moment le plus sombre de l'histoire d'Israël. Le peuple, quelques 3 ans plus tôt, était en effervescence. Lorsque Jésus est arrivé, Jésus de Nazareth, ils ont trouvé en lui un prophète puissant en parole et en acte. Il a circulé dans les villages et les villes annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a accompli des miracles et tout cela a redonné de l'espoir à un peuple désespéré. Le peuple était torturé politiquement par le pouvoir de l'Empire romain. Ce dernier pesait de tout son poids sur tout Israël et il semait la terreur. Pour se maintenir au pouvoir, ils ont décidé, ils ont imaginé et ils ont mis en place une punition, une sanction qu'on doit donner à tous les grands malfaiteurs, à tous les bandits des grands chemins, à tout ce qui tenterait d'organiser une révolte contre eux, et c'était la crucifixion. Deuxièmement, le peuple était torturé économiquement par des lourdes taxes qu'ils étaient appelés à payer pour soutenir les nouveaux pouvoirs. Et lorsqu'on paie beaucoup de taxes, on est appauvri, n'est-ce pas? Sur le plan religieux, les chefs religieux se sont éloignés du peuple. Ils n'écoutaient pas leurs cris. Et le diable, malheureusement, s'est installé en Terre Sainte. Il y avait beaucoup de gens possédés des démons et des mauvais esprits. Mais les chefs religieux, malheureusement, tout en disant, en prétendant qu'ils conduisent le peuple, ne se mettent pas en peine pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider ce peuple pris en otage, non seulement politiquement, économiquement, mais aussi spirituellement. Ils ne font rien. Au contraire, et c'est ça que nous allons voir, on dirait qu'on prévu que le groupe est dirigé en deux groupes, les foules qui suivent Jésus ont trouvé en lui le Messie de Dieu, les libérateurs qu'on attendait. Et Jésus annonce la bonne nouvelle, il fait beaucoup, derrière lui il y a beaucoup de gens qui le suivent, qui sont conscients que cette fois-ci, ils ont trouvé le Messie. Malheureusement, ils prennent Jésus comme un Messie politique. C'est-à-dire qu'il va le libérer du pouvoir de l'Empire romain, qui pèse politiquement sur eux, qui pèse politiquement aussi économiquement sur eux. Même dans les cercles réduits des disciples de Jésus, presque tous sont convaincus que Jésus est venu les libérer sur le plan politique. Jésus se donne la peine d'annoncer sa mort, d'annoncer comment les chefs religieux vont le faire arrêter, vont le livrer à Pilate, vont le condamner et puis le crucifier. Mais c'est comme si les oreilles étaient bouchées. Ils n'écoutent pas. Ils ont les intérêts placés ailleurs. Vous vous rappellerez que dans les évangiles, il y a un récit où même un moment, les disciples de Jésus, après qu'il ait annoncé qu'il allait mourir, les disciples commencent à se poser la question, en fait, qui sera le plus grand? Qui va être assis à sa droite? Qui va être assis à sa gauche? Ils réfléchissent en termes de positionnement à côté de Jésus pour se partager le pouvoir. Pierre lui-même, quand Jésus annonce qu'il va mourir, d'abord Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils disent, tu es Jean-Baptiste, donnant, tu es Jérémie, ou tu es l'un des prophètes. Et puis, Pierre ajoute, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, tu n'as pas dit ça par toi-même, ça doit être mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Jésus en profite pour dire qu'il va mourir. Pierre dit non, ça ne peut pas t'arriver. Ça ne pourra jamais t'arriver. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Pierre est convaincu avec les autres que le Messie est venu, pas pour mourir. Le Messie est venu pour renverser le pouvoir en place. Il est venu aussi pour régner, il ne mourra pas du tout. Ils sont consternés, les disciples, quand ils constatent que Jésus a été arrêté, traduit en justice, dans un procès injuste, et puis crucifié. La mort de Jésus plonge les disciples dans la confusion totale. Il y a un vide terrible dans leur cœur, et tout l'avenir qu'ils avaient placé, l'espérance de l'avenir qu'ils avaient placé en Jésus, est tout à fait sacrifié. Lassement abattu comme un malfaiteur, ils sont déconcertés, bouleversés, abattus, plongés dans la poussière. Alors la nouvelle de la résurrection arrive. Au lieu qu'ils sont plongés dans la joie, ils sont plutôt davantage plus préoccupés. Les femmes sont allées très tôt le matin, disent les quatre évangiles, pratiquement. Ils ont trouvé la pierre roulée, mais lui, on ne l'a pas vu. La pierre est roulée, le tombeau est vide, mais lui, personnellement, on ne l'a pas vu. La question que nous allons nous poser dans ce message, pourquoi Jésus, quand il ressuscite d'entre les morts, ne reste pas plutôt à la porte de la tombe? Comme ça, les gens, quand ils viendront, ils feront quoi? Ils les verraient. Ils auraient pu le voir, même ceux qui l'ont crucifié constateraient qu'il est là, et ça allait susciter des applaudissements, n'est-ce pas? Parce que le héros est sorti de la tombe. Jésus ne fait pas ça. Pourquoi Jésus choisit, de façon sélective, d'annoncer sa résurrection, de montrer qu'il est ressuscité seulement à ses disciples, pas à la foule? Pourquoi ça? Pourquoi tout Israël qui a vu Jésus crucifié n'est pas en mesure de revoir Jésus ressuscité? Il ne pourra que se faire voir seulement à ses disciples. Pourquoi? Ça, c'est une question importante à laquelle ce message va répondre. Mais voyons d'abord dans quel état, puisque nous allons répondre à la fin de ce message, voyons d'abord dans quel état d'âme se trouvent les disciples à qui Jésus va venir à un moment donné se révéler qu'il est ressuscité. La première, c'est Marie de Magdala. Vous avez lu le texte. C'est Marie de Magdala qui arrive au tombeau très tôt le matin. Elle constate que la pierre fermant l'entrée du sépulcre a été déplacée. Sans vérifier, elle tire la conclusion qu'on a enlevé le Seigneur de la tombe. Et elle court. Elle va voir Pierre, elle va voir les disciples bien-aimés pour leur dire, en tout cas, qu'on a enlevé son corps. Elle va s'engager dans une recherche passionnée de Jésus de Nazareth. Parce qu'en fait, elle est venue le matin pour voir là où l'habite. En tout cas, constater là où se trouve son corps et comme d'autres femmes, pour l'embaumer. Cette recherche passionnée, on va voir trois fois dans ce passage comment elle va tâtonner pour essayer de trouver Jésus. Nous rappelle le livre des Cantiques, au chapitre 3, verset 1, qui dit « J'ai cherché. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » La première tentative sera celle de voir les disciples, mais les disciples ne vont pas l'aider. Au lieu qu'ils lui disent quelque chose, ils aussi vont aller vérifier les faits. Ils vont même s'engager dans une compétition des courses. L'un va courir plus vite que l'autre. Ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Deuxième tentative. Lorsque les autres sont en train de vérifier, elle va se mettre à la porte de la tombe. Et là, elle est en train de pleurer. Les anges vont lui poser la question. Les deux anges. Femme, pourquoi pleures-tu? Elle va dire que elle cherche le corps de Jésus. On a enlevé le corps de Jésus et on ne sait pas où on l'a mis. Troisième tentative. Troisième tentative, Jésus lui-même, le ressuscité, va venir auprès d'elle pour lui dire, femme, pourquoi pleures-tu? Elle va le confondre à un gardien. Elle va lui dire, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Elle est complètement déstabilisée. Elle est atterrée, comme on dit. Elle est vraiment plongée à terre. Elle est frustrée. Mais plus que cela, elle est aveuglée par son chagrin. Ce qui fait qu'elle ne peut pas comprendre le fait que le tombeau est vide, le fait que les anges sont là, le fait même que Jésus se révèle à elle pour essayer de lui parler, mais n'est pas en mesure de la reconnaître parce qu'elle est plongée dans le chagrin. Elle est aveuglée par son chagrin et son amour envers Jésus pour qu'elle tienne à tout prix à retrouver le corps. Le corps de qui? De celui qui est déjà ressuscité. Ce qui est difficile pour elle, c'est que ni la présence des anges, ni le tombeau vide, ni le fait de trouver Jésus qu'elle ne reconnaît pas, rien de tout cela ne l'aide à sortir de l'auberge. Elle ne peut même pas se souvenir que Jésus avait dit qu'il mourrait, mais aussi qu'il serait ressuscité. Pour elle, le corps de Jésus ou rien. Alors la question, pourquoi Marie de Magdala pleure si amèrement? Parce que le corps est perdu. Vous le savez bien, pour être en mesure de vivre pleinement le deuil, il faut qu'il y ait la présence du corps. N'est-ce pas? Même ici chez nous, en Afrique, même ailleurs, tant que le corps n'est pas là, on ne peut pas pleurer comme il faut. Il faut que le corps soit là. Alors, comme le corps n'est pas là, en tout cas, même le deuil ne sera pas bien vécu. Il faut qu'on fasse tout pour retrouver le corps. Est-ce qu'elle va retrouver le corps? Mais ce qui intéresse dans ce passage, c'est que pour avoir cherché Jésus avec passion, elle va le trouver. Alléluia! Pour avoir cherché Jésus de tout son cœur, elle va le trouver. Cela me rappelle la parole du prophète qui disait, si vous me cherchez, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouver. Mais comment va-t-il le trouver? Va-t-elle le trouver? C'est quand seulement Jésus va l'appeler par son nom, Marie, que tout va devenir clair. Elle va comprendre que Jésus est ressuscité. Malheureusement, nous sommes au verset 17. Quand Jésus se fait connaître, reconnaître par elle, elle va tenter de le retenir. Jésus dit ceci, ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Ne me retiens pas parce que je ne suis pas encore allé vers le Père. Jésus essaie de rendre Marie consciente d'une vérité fondamentale, de la résurrection à la résurrection. C'est que il y a un changement qui va s'opérer dans la relation entre Jésus et ses disciples après la résurrection. Le changement, c'est lequel? Il y a un type de relation qui va commencer à avoir lieu. Jésus ressuscité d'entre les morts, dans la chair ressuscité d'entre les morts, ne sera plus accessible comme c'était le cas de son vivant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les yeux de la chair ne seront plus à mesure, seront impuissants à voir Jésus, à le reconnaître sans que Jésus lui-même ne prenne l'initiative qu'on le reconnaisse. Alléluia. Si vous lisez Luc chapitre 24, c'est bien ça. Si vous lisez ces récits de Jean chapitre 20, c'est aussi ça. Il n'est plus possible, après la résurrection, par nos yeux de la chair, de voir Jésus. On ne pourra le voir que si lui-même prend l'initiative d'ouvrir les yeux pour qu'on puisse les voir. Deuxième affirmation, c'est que par la résurrection du Christ, c'est là qu'il envoie Marie à mission, lui dit, va vers mes frères, va leur dire que je m'en vais vers mon Père et vers leur Père. Je m'en vais vers mon Dieu et leur Dieu. C'est le seul passage dans tous les évangiles qui annonce que Jésus, désormais, par sa résurrection d'entre les morts, il y a une nouvelle famille. Alléluia. Une nouvelle famille à laquelle nous tous, tous ceux qui croient au message de la résurrection, deviennent non seulement disciples, mais encore et surtout frères et sœurs du Christ. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus devient notre grand frère, et toi tu deviens sa petite sœur. Et moi je deviens son petit frère. La famille de Dieu devient possible. Les liens de consanguinité qui nous lient les uns et les autres n'ont plus de valeur par rapport à cette grande famille de Dieu à laquelle nous tous désormais nous allons appartenir. Alléluia.
Amen.
Est-ce que tu es membre de cette famille? C'est ça le message fondamental de Pâques. Que nous sommes désormais membres de la grande famille de Dieu. On pourrait dire que Jésus opère un transfert, c'est-à-dire que son Père est transféré à nous pour devenir notre Père. Son Dieu est transféré à nous pour devenir notre Dieu. Et Marie est chargée d'annoncer cette bonne nouvelle aux apôtres, aux hommes enfermés, crétifs, ils ne sont pas sortis, mais elle, ce matin-là, elle est sortie. Elle a pris l'initiative, elle a pris le risque de sortir, elle a été utilisée comme la première missionnaire, la première apôtre pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Femme, il ne faut pas vous négliger. Deuxième type de disciples. Quand nous lisons à partir du verset 19, la Bible nous dit que le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. J'aime bien cette traduction-là. La maison, ils étaient, les portes étaient verrouillées. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur des représailles des Juifs, des chefs religieux juifs, mais aussi ils avaient peur pour avoir trahi Jésus, leur maître, parce que tous l'avaient complètement abandonné. Il est resté seul. Ils sont tous enfermés dans la peur. La résurrection a eu lieu très tôt le matin et le dimanche, mais jusqu'au soir, ils sont enfermés. Ils ne connaissent rien. Même si on leur disait, ils n'y croient pas. Parce qu'ils sont enfermés dans la peur. La peur, bien aimé, est l'un des ennemis les plus puissants qui tenaille notre âme et qui tenaille notre esprit. Particulièrement dans les moments d'incertitude. Qui n'a jamais été pris de peur parmi nous? Il y a des gens dont la peur est devenue un ami. Ils sont perpétuellement dans la peur. Pour quelle raison? À quoi la santé précaire, on se demande de quoi je serai fait demain. Lorsqu'il y a une menace de la rupture d'un contrat, on a peur ou on n'a pas peur? On a peur. Lorsqu'on ouvre la boutique le matin et pendant toute une semaine, on ne vend pas comme on était en train de vendre il y a de cela quelques mois. On a quoi? On a peur. Quand on n'a pas les moyens pour scolariser les enfants. Que les enfants sont partis le matin, déjà repartis à 10h, on commence à se poser la question, est-ce qu'on ne va pas les chasser à cause de Minerva? Ils sont partis, on a prié, mais en fait, on a peur, avec raison. Quand il y a un retard de conception ou qu'un enfant traîne à venir, quand les filles atteignent déjà 25 ans, elles commencent à se poser la question, est-ce que ça va marcher? J'ai vu une sœur qui me disait, elle était à la faculté de théologie, elle me disait, pasteur, je suis déjà 25 ans. Et les gens commencent à me dire que c'est déjà tard, je n'ai plus à espérer. J'ai dit, sans effet au nom de Jésus. Elle s'est mariée aujourd'hui. Elle est en train de servir le Seigneur. Quand le chômage est dur, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur. Quand on échoue dans telle affaire, on a même peur d'engager une autre affaire en croyant que encore je vais échouer. Ces échecs répétitifs constituent un blocage à cause de la peur. Quand la sécurité grandit, quand les échéances de payer le loyer arrivent, ou de renouveler la garantie arrive, on a peur. Bref, il y a bien des choses qui nous font peur. Et la peur est tellement dangereuse parce qu'elle est l'ennemi. L'ennemi l'utilise pour placer nos problèmes même au-dessus de Dieu. Dieu devient très petit et nos problèmes deviennent trop grands. On constate que ces problèmes-là, il y a eu à un moment donné un autocollant qu'on vendait, on disait « Mon Dieu est plus grand que ton problème. » Et le combat dans lequel la peur nous engage, c'est le combat au niveau de la pensée. Voilà pourquoi Jésus s'est tenu au milieu des disciples affairés, enfermés dans la peur. Et la parole qu'il prononce, il dit « Que la paix soit avec vous. » Par deux fois, Jésus prononce cette parole, que la paix soit avec vous. L'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par la prière, par la supplication et par les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et quoi encore? Et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. Nous devons garder nos pensées et nos cœurs attachés à qui? À Jésus ressuscité. Alléluia! Amen. Rappelons-nous tout cela régulièrement, que nos cœurs, nos pensées doivent être gardés à Christ ressuscité, qui a dit à ses disciples que la paix soit avec vous. Soyons donc sensibles à la présence du ressuscité qui surgit même là où un espoir n'est plus permis. Y a-t-il des situations dans lesquelles vous êtes en train de passer et qui vous font peur au point de croire qu'il n'y a plus de raison d'espérer? Il y a des enfants qui font pleurer les parents tous les jours. Il y a des familles où les papas devenus responsables pour des actes irrationnels et irresponsables. Peut-être qu'il devient très soulagé. Peut-être qu'il a des mauvais amis. Peut-être aussi qu'il a son argent, il ne sait même plus où cet argent va. Et les gens souffrent alors qu'ils ne devaient pas souffrir. Il y a des hommes qui entrent dans la vie des filles ou des femmes qui viennent détruire la vie de ces filles ou de ces femmes. Il y en a. Mais il y a aussi des femmes ou des filles qui entrent dans la vie des garçons et des hommes pour les détruire. Et à un moment donné, on est désemparé. Face à des situations déroutantes dans nos vies, Bien-aimé, je vous rassure, le ressuscité est bien présent. Alléluia.
Amen.
Il a dit à ses disciples que la paix soit avec vous. Cette paix-là, c'est le shalom. Jésus souhaite le shalom à ses disciples, le shalom qui est une nouvelle de la sérénité, de la tranquillité, de la quiétude et du repos entre les mains de celui qui est mort et qui est ressuscité. L'efficacité de la présence du ressuscité va changer les disciples. La Bible dit que les disciples, si nous lisons encore le passage, le verset 20, « Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. Et en voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. » Alléluia! Les disciples ont été plongés dans la joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Christ élevé se tient au milieu des disciples. Et c'est le crucifié lui-même qui se tient au milieu d'eux. Pourquoi Jésus choisit de leur montrer ses mains? Pourquoi Jésus choisit de leur montrer son côté? Là où les clous sont passés et là où la lance est aussi passée. Pour qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de différence entre celui qui a été crucifié et celui qui se tient là. Au milieu d'eux. La seule différence, c'est que celui-là est transfiguré. Même quand les portes sont fermées, il peut entrer sans ouvrir la porte. Alléluia. Le crucifié a été transfiguré et sa présence n'est plus soumise aux lois physiques ni aux contraintes naturelles qui sont celles de l'homme avec son corps. Il peut arriver à n'importe quel moment. Il n'y a plus de limite. Le corps qu'il a, c'est le corps transfiguré, c'est le corps spirituel, changé, transformé, par lequel il peut se maintenir, se tenir debout face à ses disciples. Mais on constate que les cicatrices sont là. Et ils sont dans la joie. Jésus les envoie en mission, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Les disciples créatifs seront investis de nouveaux pouvoirs, d'une nouvelle force. Par les dons du Saint-Esprit, ils ne seront pas laissés seuls. Ils sont engagés dans la mission, ils seront des avocats de la résurrection du Christ. Il faut qu'ils constatent que le Christ est réellement ressuscité. Ils l'ont vu. Ils ont le pouvoir de proclamer le pardon. À qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Alléluia. À qui vous ne remettrez pas les péchés, ils ne seront pas remis. La bonne nouvelle de Pâques, c'est le témoignage du Christ ressuscité. Qui m'a changé? Qui m'a transformé? Qui a opéré dans ma vie? Qui a changé mes craintes en sujet de joie? C'est ça que j'ai lu en psaume 30, verset 31, psaume 30, verset 12. Tu as changé mon deuil en une danse. Tu as remplacé mon sac par des habits de fête. Alors mon âme te chante sans répit. Seigneur mon Dieu, je te rendrai grâce. Je te rendrai grâce toujours. Non seulement la Pâque, la nouvelle de Pâque me change, mais aussi la nouvelle de Pâque me donne un nouveau regard sur les événements que je vis. Parce qu'il peut changer mon deuil en une danse de joie. Il peut changer mes peurs en un sujet de joie. Il peut remplacer mon sac de deuil par des habits de fête. Que le Seigneur nous aide à nous réjouir de cette Pâque qui nous change, qui nous transforme par la puissance du Saint-Esprit et qui nous envoie en mission pour rendre le témoignage de ce que Christ est réellement ressuscité. Et qui vous donne la grâce d'avoir un nouveau regard sur les situations que vous vivez. J'ai choisi qu'à la fin de ce message, avant de prier, pendant que nous chantons ce message, ce cantique, je vais vous demander de vous mettre debout. Si vous avez des situations qui vous déroutent, si vous avez peur de ceci ou cela, nous allons prier avec vous. Sur le chemin, va sans peur.